Eh bien, hier, c'était quand même une journée exceptionnelle, c'est-à-dire que Santé Canada, qui a finalement autorisé le vaccin de Pfizer et BioNTech, les Américains devraient le faire demain. La Grande-Bretagne a déjà commencé son opération de vaccination. Pas certain qu'il y a beaucoup de gens qui croyaient que c'était possible d'élaborer un vaccin aussi rapidement. Rappelez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, on parlait davantage du printemps. Et là, on commence à vacciner. Ça va se faire tranquillement. Il y a aussi le vaccin de Moderna qui devrait être approuvé. D'autres vaccins sont en phase également. Et je vais faire le point avec le professeur Benoît Masse de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Monsieur Masse, bonjour.
Bonjour.
D'abord, c'est quand même assez exceptionnel de trouver un vaccin, de faire tous les essais, toutes les phases, puis d'être capable de l'administrer en si peu de temps.
Ah, c'est tout un exploit. Je dois dire, j'étais parmi ceux-là, là, au mois de mars, qui disait que ce serait impossible de commencer la vaccination au Québec au mois de décembre. J'en reviens pas, c'est vraiment un exploit inédit. Et ça montre bien, là, on l'a vu dans, je pense, dans la chronique de Patrick Lagacé ce matin, là, qui parle de ça, c'est jamais vu. Et ça démontre bien que lorsque la planète entière s'y met, on est capable d'exploits extraordinaires de régler des problèmes importants. C'est vraiment tout un accomplissement.
Mais comment on a pu faire ça, d'après vous? Comment on a pu, là, si rapidement, là, faire trouver finalement, comme on dit, la clé du coffre-fort, puis être capable de faire les essais, puis d'arriver avec des études concluantes?
Bien, il y a eu les ressources. Il faut dire que les gouvernements ont mis l'argent, ont mis les moyens. Ça aide énormément. On a pris des risques, par exemple, de construire les usines avant même de savoir si les vaccins étaient efficaces. Ça, on sauve énormément de temps. Il y a aussi, j'ai jamais vu autant de collaborations scientifiques sur la planète. On est assez compétitif entre les scientifiques. Hein. Lorsqu'on a une bonne idée, on va être les certains d'être ceux qui en parlent les premiers, qu'on a les premières publications. Et là, par contre, là, on a laissé tomber la compétition entre les scientifiques et on s'est communiqué les informations nécessaires très, très rapidement. Écoutez, moi, je ne suis pas un grand fan de Twitter, mais c'est la seule raison que je me suis pris un compte Twitter en février 2020, parce que c'était le moyen de communiquer le plus rapide entre les scientifiques. Et encore là, ça, c'est du jamais vu, cette collaboration-là.
Bon, l'autre question que j'ai envie de vous poser ce matin, il y a eu deux cas en Grande-Bretagne de gens qui ont eu une réaction, là, des gens qui avaient des allergies connues, qui ont eu des problèmes respiratoires. Et là, on nous dit, pour les gens qui ont des allergies sérieuses, il faudrait mieux ne pas recevoir le vaccin. Qu'est-ce que ça vous dit, ça?
Ben c'est certain, ça va être, on va devoir être excessivement transparent. Là, il y a deux choses qu'on peut s'attendre. Là, c'est que lorsqu'on va vacciner des 100 000 et même des millions de personnes, il va arriver des effets indésirables, des choses comme on a observé au UK. Ça, on s'attend à ça. Même si c'est très rare, même si ça arrive sur une personne sur 100 000 ou une personne sur un million, étant donné le nombre qu'on va vacciner, ça va arriver. Alors, mais par contre, ça prend de la transparence. Parce que ceux qui ont des inquiétudes, vous vous souvenez du fameux sondage de la semaine passée, là, sur les intentions. Oui, il y avait quand même presque 70% qui avaient l'intention de se faire vacciner, mais il y avait quand même 30% qui avaient des réticences et qui voulaient avoir plus d'informations pour se faire vacciner. Alors, cette transparence-là pour dire, bon, oui, ça va arriver. Par contre, c'est excessivement rare où il va falloir quantifier l'information qui, comme on a dit, bon, des réactions allergiques, c'est pas juste ce vaccin-là. On a, si vous faites vacciner par la grippe, c'est une des premières questions qu'on va vous demander. Avez-vous des allergies? Alors, c'est connu comme un facteur qui peut contribuer à la réaction qu'on a vue. L'autre chose qu'on va voir aussi, là, c'est presque assuré, là, c'est ce qu'on appelle les échecs vaccinaux. On va entendre parler de personnes qui se sont faites vacciner, puis 4-5 semaines après, ils ont attrapé la COVID. Puis ils se ramassent en hospitalisation, ou même pire, peuvent décéder. Ça va arriver malheureusement, parce que le vaccin n'est pas parfait.
Parce que la question que les gens se posent, quand on dit que c'est un vaccin efficace à 95%, qu'est-ce que ça veut dire?
Ben, ça veut dire qu'il réduit, là, l'efficacité qu'on a, c'est qu'il réduit la sévérité de la maladie. Et c'est ça, évidemment, ça va aider énormément à désengorger les hôpitaux. Alors, au lieu d'avoir un cas sévère de COVID, si vous attrapez le virus, vous allez avoir peut-être même être tout simplement asymptomatique ou un cas très léger qui ne nécessite pas une hospitalisation. Évidemment, là, on voit le problème au Québec particulièrement. C'est vraiment ça qui nous inquiète le plus parce qu'on arrive à un point où là, on commence à faire du délestage, bon, de choses moins urgentes, mais on sait comment ça commence. Si ça ne se règle pas, bien, à un moment donné, on va commencer à tomber dans des choses qui sont des interventions qui sont plus nécessaires. Aussi, la crainte de certaines personnes d'aller dans les hôpitaux, de ne pas se faire soigner. Et là, la surmortalité qui peut être causée par ce délestage-là. Alors, c'est quand même un vaccin qu'on ne sait pas encore, mais on va le savoir prochainement, à savoir s'il prévient la transmission, s'il prévient l'infection. Mais pour l'instant, là, ce qu'on sait, c'est qu'il est efficace, ça veut dire bon, à réduire la sévérité de la maladie. C'est comme similaire un peu au vaccin de la grippe. On dit qu'il n'est pas nécessairement bon, il ne vous empêchera pas d'attraper la grippe, mais si vous l'attrapez, elle va être beaucoup plus faible. Elle va être beaucoup moins forte que si vous n'étiez pas vacciné.
Il y a un élément que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que Pfizer, compte tenu, disons, des conditions là, difficiles pour transporter, manipuler le vaccin, bon, la notion de la chaîne de froid là, à moins 70, a mis des dispositifs pour s'assurer que ces protocoles étaient respectés pour ne pas se retrouver avec un vaccin mal donné, mal conservé qui amènerait des problèmes.
Oui, en fait, cette technologie-là, elle existait avant, je dois vous dire. Pour d'autres études, par exemple, chaque boîte de médicaments ou chaque boîte de vaccins a un capteur qui enregistre la température. Et si jamais la température descend à un certain niveau ou elle devient trop chaude, on sait que la boîte a été compromise, que probablement le médicament n'est pas nécessairement optimal ou carrément ne devrait pas être administré. Alors, c'est une technologie qui existait avant. C'est des processus c'est pas nouveau. Là. On l'utilise aussi pour d'autres médicaments, d'autres vaccins, pour s'assurer que lorsqu'on donne le vaccin, qu'il est encore bon. On sait que ce vaccin-là se dégrade très rapidement à la chaleur. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas administrer un vaccin qui, finalement, est inerte parce que il a surchauffé.
Il y a d'autres entreprises, d'autres chercheurs là, qui travaillent à élaborer des vaccins. Le fait qu'il y en ait déjà un d'approuvé, que le deuxième, c'est une question de jour, nous dit-on, avez-vous l'impression que ça accélère les autres chercheurs, en fait, les travaux des autres chercheurs, ou ça n'a pas d'effet?
Ben ça peut pas vraiment accélérer les études qui sont en cours parce que bon il faut recruter, on peut pas, c'est difficile de d'accélérer le processus des études. Pour le développement, c'est sûr que c'est encore là difficile d'accélérer un processus qui a déjà été accéléré à son maximum, je dois dire. Donc, ça va falloir, ceux qui sont en phase 1 présentement ou en phase 2, va falloir qu'ils complètent leurs études. C'est sûr que là, ils se disent, ouais, ben là, quand ça va être notre tour, ça va être peut-être un peu plus difficile de réaliser nos études, parce que dites-vous bien que, imaginez, là, on commence une étude dans un an, puis on vous demande de participer à une étude où on pourrait vous randomiser un vaccin placebo. Ben là, ouais. Vous allez dire, pourquoi je me ferais vacciner avec un placebo là, quand il y a des vaccins qui fonctionnent? Alors, ça peut être difficile de recruter. Ça va prendre d'autres types d'études. Ça complexifie un peu comment on va évaluer les vaccins qui s'en viennent. Mais en termes d'accélération, ce serait difficile de dire qu'ils peuvent accélérer. On est déjà, je pense, au maximum du développement. Là. Ils doivent poursuivre leur cours et lorsqu'ils arriveront, ça risque qu'on va voir si ils seront en mesure de faire les études que ce qu'on appelle la première génération de vaccins a fait, parce que, bon, la première génération, on pouvait recruter des gens, il n'y avait pas d'autre choix, il n'y avait pas de vaccin, donc les gens ont accepté de se faire randomiser à un placebo ou un vaccin actif, mais ça devient un peu plus compliqué lorsqu'il y a d'autres options.
Parfait. Merci beaucoup, M. Mas. Bonne journée.
OK, parfait.
Au revoir. Benoît Mas est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Alors, quand même une nouvelle majeure, puis comme je vous dis, il y a des autres vaccins, enfin un autre là, qui est aussi sur le point d'être approuvé.